Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Antenne Doc au studio du Boulevet et aujourd'hui je reçois Alexandre Mazière qui a fondé une association qui s'appelle La Belette. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors c'est une propriété près de Montcuq dans le Lot et c'est un super projet. Ça va être un centre de sauvegarde de la faune sauvage, c'est ça le projet?
Exactement, c'est une association qui aura pour but de toute manière la préservation du milieu naturel et surtout de ses habitants du coup, en permettant une prise en charge d'un point de vue de soins des animaux sauvages qui soient trouvés en état de détresse, donc c'est-à-dire blessés, malades, affaiblis ou tout simplement orphelins.
Mais c'est pas pour les garder.
Non, exactement. C'est pour ça que ça, on peut pas vraiment parler d'hôpital de faune sauvage. On peut plutôt parler du coup de centre de réinsertion parce que une fois qu'on les a soignés, c'est toujours dans le but de pouvoir les réintroduire dans le milieu naturel à 100%.
Alors cette association La Belette, elle existe depuis combien de temps?
Alors ça reste une association relativement jeune. On l'a créée administrativement en novembre 2019. Et on vient tout juste de pouvoir s'implanter réellement sur notre site futur, c'est-à-dire sur la communauté de commune de Montcuq, dans le Quercy Blanc. Et nous avons pu acquérir les terrains du futur centre de sauvegarde en août 2021.
Je crois que c'est le seul avant des kilomètres et des kilomètres.
Exactement.
Enfin, il sera le seul.
C'est ça. Dès qu'il sera ouvert, donc ça c'est vrai qu'on entamera une phase de travaux, mais... Actuellement, en fait, il n'y a pas du tout de solution pour la faune sauvage en détresse sur le département du Lot, comme du Tarn-et-Garonne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est implanté vraiment à la limite de ces deux départements. Et jusqu'à présent, en fait, c'est la LPO Lot qui se charge, grâce à leur réseau de bénévoles rapatrieurs, de récupérer les appels des découvreurs, les particuliers qui trouvent des animaux sauvages en détresse. Et ensuite, une fois que justement le petit réseau peut se mettre en place, ils vont le faire transporter jusqu'au centre de soins, centre de sauvegarde, qui sont parfois très très loin. Donc ça peut être aussi bien Toulouse, Limoges, Tonneins ou même Millau.
C'est quoi votre parcours pour avoir eu l'idée de créer un centre de sauvetage?
Alors, c'est un parcours assez inhabituel, mais ça reste quand même toujours dans le milieu de l'environnement. J'ai fait un Master 2 en gestion et évolution de la biodiversité, qui m'a amené à ne pas avoir vraiment de travail qui me satisfaisait. C'est vrai que ça, être en Master 2, ça éloigne beaucoup, beaucoup du travail de terrain que j'affectionnais beaucoup, beaucoup plus. Et du coup, après avoir eu un Master 2, après avoir fait plusieurs stages justement pour faire des inventaires en fait de la biodiversité, que ce soit aussi bien du hamster sauvage que des petits muscardins, des loirs, des lérots qu'on peut retrouver beaucoup plus dans la région par exemple, mais je suis parti en Guyane pour travailler en tant qu'enseignant. Tout simplement parce que j'avais besoin vraiment de transmettre certaines valeurs et surtout beaucoup de connaissances que j'avais acquises avec ces longues années d'études. Et je me suis retrouvé en fait par la suite à postuler un petit peu à la va-vite, mais avec le recul c'était quand même mûrement réfléchi, à un poste de médiateur faune sauvage auprès de la LPO Aquitaine, qui m'a amené justement à travailler avec le centre de soins de la LPO sur place en fait dans le bassin d'Arcachon. C'est très éprouvant, il faut le dire, hein, psychologiquement comme physiquement, mais c'est vrai qu'une fois qu'on y est rentré, c'est très dur de s'en détacher, et c'est vrai que j'ai beau avoir fait quelques boulots ensuite, après cette période de centre de sauvegarde, le virus m'a quand même bien accroché.
Je crois qu'il faut un certificat de capacité pour s'occuper des animaux sauvages.
Alors, pour ouvrir un centre de sauvegarde, il faut qu'une des personnes, en tout cas, qui travaille au sein du centre soit capacitaire faune sauvage, c'est-à-dire en certificat de capacité, ça peut être pour beaucoup d'espèces différentes, on peut en avoir d'ailleurs même pour les espèces domestiques. De nos jours, pour détenir certains animaux domestiques, il faut un certificat de capacité. Mais dans le cas des centres de sauvegarde, il faut dire que globalement, chaque centre peut accueillir différentes espèces. À ce niveau-là, je peux m'expliquer un peu plus. C'est que un centre de sauvegarde peut, par exemple, n'accueillir que des oiseaux ou que des mammifères, ou même des oiseaux et des mammifères, ou même encore plus. Cela dépend en fait uniquement du certificat de capacité qu'on peut l'assimiler à un diplôme, qui est par contre inhérent à uniquement le capacitaire. C'est-à-dire, le capacitaire est responsable de vraiment de tous les animaux qui vont rentrer dans le centre de sauvegarde, et les autres soigneurs qui seront là dans le centre, eux n'ont pas besoin d'avoir un certificat de capacité, on repose tout sur le certificat de capacité du capacitaire. Du coup, c'est vrai qu'on peut avoir des centres de sauvegarde qui vont être spécialisés uniquement sur le soin des oiseaux marins, ça peut arriver beaucoup sur nos côtes françaises. C'est vrai que dans l'intérieur des terres, généralement, on essaie d'être le plus diversifié possible, et là, c'est le cas pour notre centre de l'association. Globalement, le certificat de capacité que présente Gabriel, du coup, notre futur responsable des soins, prendra en charge absolument tous les mammifères, tous les oiseaux, tous les reptiles et tous les amphibiens.
Ce sont des études presque de vétérinaire ou quoi ?
Pas vraiment forcément des compétences en soins, c'est tout simplement prouver dans un document et dans un oral, c'est vrai que ça demande quand même des documents assez gros, mais prouver en fait à la préfecture qu'on est capable de s'occuper, d'élever ou même parfois de faire reproduire certaines espèces. Ça demande de prouver qu'on sait quelle nourriture a besoin un animal, quelle maladie peut attraper telle espèce et également genre, de quelle installation ont besoin quelles espèces et telles espèces.
Donc ce projet, il est en cours, il débute. Vous avez commencé les travaux sur ce terrain que vous venez d'acquérir, c'est ça ?
C'est ça. Le terrain étant tout juste acquis, nous avons du coup implanté le siège de l'association tout récemment sur la commune de Montcuq. Et les travaux vont commencer cet automne, donc là, tout début novembre, on va pouvoir commencer les tout premiers travaux justement sur les deux bâtiments que nous avons choisis du terrain. Alors ce sont des très vieux bâtiments, justement, ça fait partie. Le choix est réfléchi, hein, d'avoir pris justement des vieux bâtiments et pas un terrain vierge. C'est étant dans une démarche quand même relativement pour la défense de la biodiversité, ça nous paraissait normal de reconstruire des bâtiments déjà existants plutôt que de raser un espace pour recréer de zéro un nouveau centre on va dire, aux normes sanitaires qui sont parfois justement assez compliquées.
Alors il va y avoir donc deux lieux, si j'ai bien compris, un lieu qui est en ce moment un pigeonnier qui va être reconverti en infirmerie, c'est ça ?
C'est ça, c'est, en fait on a un bâtiment qui est relativement grand, qui va accueillir toutes les salles de soins, dont justement l'infirmerie qui est une des pièces principales, on va dire, du centre de sauvegarde. Il y aura également plusieurs nurseries, que ce soit pour les mammifères, pour les oiseaux, justement, pour tous les oiseaux et mammifères trop jeunes pour se débrouiller tout seuls et qui ont été trouvés justement sans leurs parents. Ce sont des salles où ils vont rester très 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 longtemps, parfois ça sera plus rapidement, c'est vrai que ça dépend toujours des espèces à ce niveau-là. Et également des salles d'hospitalisation, on va dire, où il y aura des soins un peu plus lourds. Je pense par exemple à des oiseaux qui ont des ailes cassées ou des oiseaux qui ont besoin de traitements antibiotiques et justement il faut que les salles où ils vont justement séjourner pendant plusieurs semaines, soit proche de l'infirmerie où tous les médicaments seront stockés.
Et quel genre d'animaux on peut trouver ici dans la région ?
Alors, énormément de rapaces. C'est vrai qu'on a la chance d'être une région avec des très belles falaises et autres qui attirent des rapaces très majestueux. Je pense notamment au hibou grand-duc, qui est quand même une très belle rareté. On aura également du circaète, qui est un rapace, lui par contre, qui vit en journée et qui s'attaque uniquement aux serpents. C'est un rapace quand même très très gros. Hein. C'est vrai que par rapport à une buse qu'on a l'habitude de voir qui font 1m40 d'envergure, avec un circaet de Jean Leblanc, on est quand même sur du 1m80, donc c'est un rapace quand même bien plus beau. Et il n'est pas non plus... ça arrive relativement régulièrement également de voir parfois du vautour qui nous arrive des Pyrénées. C'est des jeunes qui font un petit peu de l'ératisme dans la région et qui parfois même arrivent jusqu'à Limoges, hein. C'est pas rare.
Mais il n'y a pas que les oiseaux.
Et il n'y a pas que les oiseaux, c'est ça. Donc les oiseaux, ça fera une grande part des accueils futurs du centre de sauvegarde. Mais il faut garder à l'esprit, généralement, quand un centre de sauvegarde peut s'occuper des mammifères, on a également beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accueils qui viennent de nos amis à quatre pattes. Donc je pense notamment aux hérissons, qui sont, quoi qu'il arrive, ça fait très très loin devant beaucoup d'autres animaux. Le hérisson font partie des espèces qui arrivent en très grand nombre, en plusieurs centaines tous les ans dans les centres de sauvegarde.
À cause des voitures ?
Alors, pas à cause des voitures. Généralement, quand ils ont croisé une voiture, c'est hélas trop tard pour nous l'amener. Il faut bien avouer qu'on peut faire de choses très très belles dans un centre de sauvegarde, mais après un passage de voiture, c'est vraiment très rare de pouvoir remettre d'attaque un hérisson. Non, par contre, le hérisson, c'est vrai qu'il est, hormis le trafic routier qui lui présente de très grosses menaces, il a beaucoup beaucoup d'ennemis, on va dire, indirects et parfois directs. Quand je pense aux ennemis directs, je pense notamment aux tondeuses. Ça arrive très fréquemment que les gens, en passant la tondeuse sans faire attention forcément ou sans avoir vérifié un petit peu la pelouse, du coup scalpent le dos d'un hérisson ou parfois la tête. C'est vrai que c'est très impressionnant, mais il faut garder à l'esprit que même scalper, même la peau du dos parfois arrachée à la tondeuse, c'est tout à fait possible pour nous de soigner ce genre de traumatisme. Et même les piquants repoussent sans aucune difficulté une fois que l'animal a repris du peps, on va dire. Mais voilà, c'est vrai que la tondeuse étant juste un petit adversaire, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup d'impact sur le hérisson.
Et quel genre d'autres animaux pourrez-vous recevoir ? J'ai vu par exemple les renards, les blaireaux,
alors,
les fouines.
C'est vraiment, on accueillera absolument toute la faune sauvage française, du moment qu'elle est endémique. Je précise cela pour exclure tout ce qui est espèces domestiques, que ce soit les chiens, les chats, ou même ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, les lapins, les hamsters et autres. Donc on pourra accueillir absolument toutes les espèces, qu'elles soient classées d'ailleurs par rapport au droit français, en chassables, nuisibles, susceptibles d'occasionner des dégâts, plutôt d'ailleurs maintenant, ou protégées, ou même sans statut du tout. On pourra accueillir absolument toutes les espèces.
Pour ce qui est de la deuxième dépendance, qu'est-ce que ça va devenir ?
Alors, la deuxième dépendance, pour le coup, c'est une ancienne grange qu'on va rénover de façon un petit peu différente du premier bâtiment, dans le sens qu'il va, lui, permettre, en fait, toutes les actions logistiques et également l'accueil des bénévoles qui viendront nous donner un bon coup de main tous les jours, quoi qu'il arrive, tout au long de l'année, surtout les printemps et l'été, quand il y a beaucoup, beaucoup de travail. Mais tout au long de l'année, on a besoin de bénévoles, de toute manière, pour nous aider. Et il y a toute la partie logistique dont je parlais, ben, c'est tout simplement, c'est vrai qu'un centre de sauvegarde, on soigne des animaux, mais il y a également toute la partie un petit peu moins glamour, c'est-à-dire laver tout le linge qui est justement plein des excréments des animaux, préparer la nourriture, laver les gamelles, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Bon, alors là, on a parlé donc des dépendances, et vous avez un parc dans lequel vous avez là aussi des projets.
C'est ça, en fait, la propriété a la chance d'avoir 2 hectares en partie boisée, en partie prairie, qui vont nous permettre de construire beaucoup, beaucoup de petits enclos et parfois de grandes volières également. C'est vrai qu'on pense à la partie, surtout quand on parle d'un hôpital de faune sauvage, on pense beaucoup à la partie, on va dire, intérieure du soin. Mais une fois que les gros soins, justement, ont été réalisés, la partie où les animaux ont passé du temps avec les humains, il faut qu'on arrive à leur faire oublier toute cette partie, on va dire, qui pourrait justement modifier leurs instincts sauvages. Donc il faut qu'on arrive à les éloigner un petit peu de la structure même du centre de sauvegarde. Donc c'est pour ça, en créant des petits enclos, ça et là, en gros, on peut permettre à certains individus de se remettre en groupe, pas forcément familiaux, mais tout simplement plusieurs hérissons ou plusieurs écureuils en ensemble. Cela permet justement qu'ils reprennent des instincts un petit peu plus sauvages. Et également, je pense aux grands rapaces dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'eux, il leur faut également de l'espace pour se remuscler. C'est vrai qu'il y a besoin parfois d'un gros travail de rééducation. Et c'est vrai que c'est dans une petite cage de 40 cm sur 50 cm, une buse, elle va pas pouvoir se refaire les muscles des ailes. Donc c'est vrai qu'il lui faudra des grandes volières, et c'est vrai que là, c'est ce qui va être un petit peu compliqué à construire, mais qu'il faudra forcément avoir, ce sera des grandes volières tunnels, de parfois plusieurs, d'une trentaine de mètres de long sur 8 mètres de large, pour qu'au moins ces animaux puissent faire des allers-retours et se muscler le plus possible avant, justement, la dernière étape, le retour à la vie sauvage.
Vous avez aussi comme projet de faire un jardin?
Oui. Exactement, c'est vrai que la partie nourriture pour un centre de sauvegarde, pour les animaux sauvages, ça peut toujours être un gros souci financier. Et pour la plupart des espèces, c'est vrai que quand c'est des herbivores, c'est relativement simple de pouvoir les nourrir si on a de la nourriture directement qui pousse sur place. On a la chance d'être dans une région où il y a un très bel ensoleillement. Et globalement, c'est vrai qu'autant faire pousser directement ce qu'on peut sur la terre qui est à côté du centre de sauvegarde. Donc c'est le projet de faire un potager en permaculture, d'une superficie suffisante, en tout cas pour, on va dire, pallier aux premiers besoins des animaux herbivores. Après, il y a également toute la partie animaux carnivores ou omnivores, ça c'est sûr qu'on aura besoin d'aide extérieure pour les nourrir en nourriture carnée. Mais pour tout ce qui est, on va dire, herbivores et également nos bénévoles qui auront besoin de manger parfois gratuitement, ce qui ne posera pas un souci, c'est vrai qu'on pourra faire pousser énormément de légumes et de fruitiers dans les environs.
Bon, c'est super. Alors, pour faire tout ça, il faut des sous. Et vous n'en avez pas tant que ça, si j'ai bien compris.
Exactement. Autant nous avons arrivé à assurer l'achat du terrain et des bâtiments par nous-mêmes, autant pour la rénovation et la réhabilitation des bâtiments, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Ça reste quelque chose dont tout le monde est au courant. Et en plus, avec nos exigences de réalité sanitaire, on va dire, et surtout d'hygiène future du centre de sauvegarde, cela demande quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que, de toute manière, depuis le début d'année, nous avons ouvert les adhésions de notre association et également les dons de particuliers et d'entreprises. Donc depuis, du coup, début 2021, nous avons ouvert une page sur HelloAsso pour récupérer justement ce genre de dons et d'adhésions. Notre association, en fait, participe à un appel à projet sur la plateforme Bluebees, qui est parrainée par le Jane Goodall Institute et l'association Sharing for My Planet. Et c'est un appel à projet justement pour ce qui s'appelle le réveil des forces sauvages, et c'est évident pourquoi on y participe.
On va parler du Jane Goodall Institute, c'est pas n'importe quoi. Comment est-ce que vous avez été sélectionné ?
Alors, c'est tout simplement la plateforme Bluebees faisait beaucoup de financement participatif pour financer des projets de permaculture, des projets de rénovation énergétique, de transition énergétique. Et depuis cette année, ils se sont tournés également vers la question de la biodiversité. On le sait tous, il suffit de regarder les rapports du GIEC ou les rapports de toutes les agences associatives justement sur la perte de biodiversité en France. Il y a un gros, gros besoin là-dessus. Et justement, Bluebees s'est dit qu'en plus de ces campagnes normales, en tout cas des années précédentes, ils allaient développer également tout le besoin d'argent qu'ont les associations qui se protègent la nature et la préservation de la nature à ce niveau-là. Et c'est justement suite à cet appel à projet des réveils des forces sauvages que, en tant que future association qui crée un centre de sauvegarde dans un espace où justement il y avait un très très gros besoin, ça, Bluebees a très vite été enchanté. C'est vrai qu'on a eu très peu de soucis en fait à mettre en place cette campagne participative.
Et elle va durer jusqu'à quand ?
Alors la campagne va durer vraisemblablement jusqu'à la fin du mois de novembre.
Donc ça va. On repassera cette interview de temps en temps. Alors c'est pas fini, il n'y a pas que les particuliers qui peuvent vous aider. Vous faites aussi appel, j'imagine, aux pouvoirs publics et même les mairies.
Effectivement, aussi bien d'ailleurs avec des soutiens d'un point de vue financier de la part des mairies que d'un point de vue matériel. C'est vrai qu'on peut toujours avoir besoin parfois d'une mini-pelle ou de tout simplement de camions-bennes pour évacuer de la terre, que ce soit pour faire des dalles bétonnées ou tout simplement pour faire du terrassement pour des futures volières. Donc ça, c'est vrai que ce sont des choses que nous allons voir par la suite avec les municipalités locales. Mais également, c'est vrai qu'au niveau des départements, c'est vrai que aussi bien du département du Lot que du Tarn-et-Garonne, et également de la région Occitanie, nous allons avoir besoin également de soutien financier, que ça, on va le voir très très rapidement de toute manière.
Alors là, c'est un peu tôt pour faire un appel aux objets, au matériel, parce que vous n'avez pas encore vraiment de lieu de stockage. Donc dans un premier temps, on peut aller sur le site, on va donner le contact pour vous donner 3 francs 6 sous.
Exactement, aussi bien le don financier. C'est vrai qu'on a également une liste de souhaits d'un point de vue matériel, mais c'est vrai qu'encore une fois, si c'est une ou deux personnes qui viennent nous amener du matériel, on peut tout à fait le stocker. C'est vrai que si le matériel est un petit peu plus gros et qu'on a beaucoup de succès, ce que je nous souhaite, ça sera plus difficile de stocker actuellement, mais c'est vrai que dans les prochains mois, c'est une situation qui devrait vite se débloquer, on va vite aménager des espaces de stockage.
Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Donc, les sites.
Alors, les sites, c'est le site de l'association La Belette, que vous trouverez facilement sur n'importe quel moteur de recherche, également sur Facebook, sur le seul réseau social où on est présent, donc l'association La Belette, pareil. Et sur les deux sites de financement participatif, donc Eloasso, association La Belette, ou sur la plateforme Bluebees, jusqu'à la fin du mois de novembre, avec notre campagne participative pour le secours aux animaux du Lot.
Et est-ce qu'on peut vous contacter directement ?
Alors oui, sur une adresse mail, donc cds.labelette@gmail.com, et sur notre Facebook également. C'est vrai qu'on essaye d'être relativement vigilant sur les messages, donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Pour l'instant, il n'y a pas de ligne téléphonique, pour la simple et bonne raison que, étant beaucoup dans les travaux, c'est compliqué d'être à côté du téléphone souvent, et surtout, la ligne téléphonique, on l'ouvrira à partir du moment où le centre, justement, ouvrira ses portes à ses premiers patients. Là, c'est dès que vous ouvrez un animal sauvage, justement, entre les pattes, ou en détresse surtout, il ne faudra vraiment pas hésiter à nous appeler pour toute question.
Alors justement, il est censé ouvrir quand ce centre ?
Alors, on espère pouvoir terminer les travaux vers la fin 2022, dans le meilleur des cas, et sinon, je pense que avec un peu de chance, on pourra ouvrir vers le premier printemps 2023.
Et vous pourrez accueillir à peu près combien d'animaux ?
Alors, combien au maximum ? Plusieurs milliers. Ça, on part du principe que les structures que nous allons construire pourront accueillir plusieurs milliers d'animaux par an. Mais on se doute que dans les premières années, ce sera peut-être plusieurs centaines, que ce soit 500, 600 animaux. Mais on aura les installations pour accueillir plusieurs milliers d'animaux dès le début. Ça, c'est acté.
On espère vraiment pour vous que ce projet fonctionne, et pour vous, pour nous, hein, et pour les animaux. On rappelle que ça sera le seul quand même, hein, dans le coin.
Oui, c'est ça. C'est le seul de tout le département du Lot et de tout le Tarn-et-Garonne. Donc c'est vrai qu'il y a des départements à côté qui ont des centres de sauvegarde, mais c'est vrai que même un centre de sauvegarde par département, c'est déjà peu. On s'en rend vite compte quand on travaille dans ce genre de structure. Donc un pour deux départements de plus, ça sera toujours ça de gagner.
Bon, moi, on rappelle le nom de l'association, c'est La Belette. On a donné les contacts et vous les retrouverez de toute façon sur notre site. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the
bedroom, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo. Thank you.